Vous écoutez France Culture.
Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Cédric Chatelus. Aujourd'hui, nous recevons Marie Balmary et Daniel Marguerat pour parler du Jugement dernier. Marie Balmary, bonjour. Daniel Marguerat, bonjour.
Bonjour.
Marie Balmary, nos auditeurs vous connaissent, vous êtes déjà venu ici, vous êtes psychanalyste, vous parlez l'hébreu, le grec biblique, vous êtes auteur de plusieurs livres qui ont beaucoup de succès, comme Le sacrifice interdit, Freud et la Bible. Daniel Marguerat, vous êtes pasteur dans l'église protestante, professeur honoraire de l'université de Lausanne, où vous avez enseigné le Nouveau Testament. Et donc vous êtes un érudit, un savant qui connaissait bien les questions bibliques. Et nous vous recevons tous les deux pour un livre que vous avez co-signé et que vous publiez aux éditions Albin Michel. Nous irons tous au paradis, le jugement dernier en question. Alors avant qu'on parle de la promesse formidable, nous irons tous au paradis, qui renvoie, me semble-t-il, à une chanson connue de Michel Polnareff. On va parler des choses sérieuses, c'est-à-dire des choses, on va dire, un petit peu qui nous enracinent dans la tradition biblique, pour essayer de comprendre cette question du jugement dernier. Jugement dernier qui est une notion qu'on retrouvera aussi dans l'islam, hein, qui est très, très importante, donc qui parcourt les trois monothéismes. Et ce sera justement ma première question. Peut-être on va commencer un peu avec Daniel Marguerat, qui est le spécialiste, voilà, qui va poser les choses telles qu'elles sont dans les textes. Et puis on va dialoguer de plus en plus avec Marie Balmary sur les interprétations. Est-ce que le jugement dernier... D'ailleurs, vous allez nous dire ce que c'est exactement, parce qu'on confond souvent peut-être le jugement de l'âme ou le jugement particulier avec le jugement dernier. Et est-ce que c'est une notion qui est déjà présente dans l'Ancien Testament ou ça apparaît ou éclot particulièrement avec le Nouveau Testament ?
Non, c'est un héritage de l'Ancien Testament. Il n'est pas apparu immédiatement dans la foi d'Israël. Il se manifeste au fond chez les prophètes. On commence avec Amos, Osée, 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ. Au fond, l'idée est la suivante. Israël a vécu longtemps avec l'idée que la rétribution, c'est-à-dire la sanction que Dieu donne du comportement des uns et des autres, s'exerçait durant la vie terrestre. Et que chacun avait au fond la vie qui correspondait au mérite ou au démérite de ses actions. Et puis, peu à peu, le constat s'est fait qu'en réalité, les sorts des uns et des autres pouvaient être tout à fait contradictoires. Ou comme le dit le psalmiste parfois, au fond, que le riche est heureux et qu'il a une longue vie, et le pauvre est malheureux et meurt tôt.
Et l'interrogation qu'on voit dans le livre de Job, par exemple.
Typiquement et classiquement, c'est le livre de Job, effectivement, cette contradiction face à l'idée d'une rétribution terrestre où Dieu devrait bénir le fidèle et le juste et où il devrait punir le méchant. Et donc, peu à peu, je dirais, l'idée d'une rétribution a été repoussée. Puisqu'elle ne pouvait pas avoir lieu durant la vie terrestre, il fallait qu'elle ait lieu, sinon, je dirais, Dieu serait ou impuissant, ou déshonoré, ou infidèle à ses promesses.
Donc, ou injuste. Ou injuste.
Parce qu'il ne peut pas cautionner, le malheur du juste. Job. Et du coup, elle était repoussée aux marges de la vie, puis aux marges de l'histoire du monde. Et peu à peu, l'idée effectivement d'un jugement qui serait le dernier jugement, où Dieu se prononcerait sur le sort. Alors, au début, évidemment, avec les prophètes, c'était un jugement collectif. C'est au fond le jugement de l'humanité, dans laquelle, grosso modo, le peuple d'Israël serait honoré, serait réhabilité, serait, disons, les plaies de son histoire seraient pansées, tandis que les méchants, les mauvais, les impies, les païens, eux, seraient sanctionnés pour leur vie à l'écart des impératifs divins. Et puis, vers le deuxième siècle avant Jésus-Christ, ce jugement final s'est alors placé dans l'espérance de l'après-mort et il s'est articulé à l'espérance de la résurrection. Mais justement, l'espérance de la résurrection apparaît au deuxième siècle, au milieu du deuxième siècle, lors de la révolte des Maccabées, où il a fallu réserver à Dieu la réhabilitation de tous les justes martyrs qui étaient morts dans les combats lorsqu'ils s'étaient opposés au roi impie qui était Antiochus Épiphane. Et c'est très intéressant parce que dans l'évolution de la foi d'Israël, la résurrection des morts à la fin des temps est venue après le jugement. Autrement dit, il fallait que résurrection il y ait lieu pour que le jugement ait lieu. Ou dit encore autrement, l'apparition de la résurrection des morts, dont on sait le succès immédiat qu'elle a eu dans l'Israël, autour de l'ère chrétienne, puis dans le christianisme, la résurrection n'est pas venue d'une question, d'une curiosité sur l'après-mort, elle est venue de la nécessité d'assurer le jugement de Dieu sur l'humanité entière. Il fallait que l'humanité ressuscite pour que le jugement ait lieu.
Et on est toujours dans l'idée d'un jugement et d'une résurrection collective, à la fin des temps.
Alors, peu à peu, à partir du IIe siècle, l'idée du jugement a passé de la collectivité à l'individu. Et c'est au fond, au tournant de l'ère chrétienne, que le jugement s'est, je dirais, individualisé très rapidement. Et Jésus a été un des vecteurs importants pour l'individualisation du jugement.
Et en même temps, il parle bien dans les évangiles de la fin des temps, du jugement dernier, de son retour dans la gloire. En quoi est-ce que le message chrétien a fait évoluer l'idée vers un jugement particulier, individuel ?
Parce que le critère du jugement était énoncé, et c'était les paroles de Jésus, telles que par exemple elles sont consignées dans le serment sur la montagne, et ces paroles s'adressent à l'individu. C'est l'individu qui est interrogé sur sa fidélité à une grâce reçue, sur la justice qu'il manifeste. Et disons que dans le cadre du judaïsme du 1er siècle, c'est un judaïsme au fond éclaté en différents mouvements. Et on sait qu'on ne peut plus parler du salut à Israël globalement. Jean-Baptiste d'ailleurs l'avait bien dit aussi avant Jésus. Et donc, on sait que si, bien entendu, tous les Israélites font partie de l'Alliance, en fait, la question et l'interpellation s'exerce sur chaque individu. Donc, au fond, l'enseignement de Jésus, centré sur l'individu et affirmant qu'on n'est pas sauvé parce qu'on fait partie de l'Alliance de Dieu avec Israël, ce facteur-là a fortement accentué l'individualisation.
Donc c'est effectivement la dimension éthique d'une vie qui est prise en compte. Mais est-ce qu'il n'y a pas finalement dans le christianisme l'idée de deux jugements ? Un jugement individuel, particulier, qui aurait lieu après la mort, et puis un deuxième jugement collectif à la fin des temps ?
Alors oui, là vous posez une question qui débouche un peu sur un mystère, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de systématisation dans les représentations de l'après-mort. Par exemple, dans la fameuse formule dans l'évangile selon Luc, au moment où Jésus meurt et où il dit à ce qu'on appelle le bon larron, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis oui. », on a là une expression tout à fait singulière qui montre que, et on la retrouve par exemple aussi dans la parabole du riche et de Lazare, l'impression qu'il y aura, après la mort, directement après le trépas, un jugement de l'individu, mais qui n'est qu'attente du grand rassemblement des élus. Mais qu'est-ce qu'il faut dire ? Les vues, elles ne sont pas systématisées. Et par exemple, la relation entre le retour du Christ et le jugement, là non plus, ce n'est pas tout à fait clair. Est-ce que le Christ revient uniquement pour le jugement ? Est-ce qu'il vient, comme ça apparaît par exemple dans la première épître aux Thessaloniciens, essentiellement pour entraîner avec lui ses élus dans le ciel, laissant les laisser pour compte sur terre? Encore une fois, il n'y a pas de systématisation.
Alors Marie Balmary, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce livre avec Daniel Marguerat sur ce thème, qui est un thème au départ théologique, biblique? Vous qui êtes psychanalyste, qui avez étudié certains thèmes bibliques, qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette question du jugement?
Alors en fait, on était déjà embarqués tous les deux dans une aventure qui était une journée de conférence sur la mort. Donc, vous voyez, ces sujets, la mort ou le jugement, très angoissants, je trouve que c'est une bonne idée d'y aller à deux. Et j'avais demandé qu'on soit ensemble pour cette journée sur la mort. Or, à la fin de cette journée, il a été question du jugement dernier. Et Daniel Marguerat a dit quelque chose qui m'a complètement interrogée. C'est est-ce que, mais Daniel le dirait mieux que moi, devant le Dieu de vérité, s'il y a un jugement, je comparaîtrais pour mon bonheur ou pour ma honte. Et c'était cette honte, ce terme de honte était pour moi tellement antinomique de la présence de Dieu si Dieu est, que je n'ai pas pu m'empêcher de crier et que tout le monde a ri. Et qu'on s'est dit...
ce cri d'indignation.
Absolument.
Un cri
de la d'indignation.
Et alors, on s'est dit, vraiment, c'est étonnant qu'on ne soit pas d'accord sur quelque chose alors qu'on est d'accord sur tellement d'autres choses. Mais il était 4h moins 5, j'avais un train qui m'attendait à Lausanne. Bon, on ne pouvait pas continuer, mais on s'était donné rendez-vous plus tard pour une discussion. Et puis, bon, ça a pris plusieurs années. Et puis, il y a un an, maintenant, à peine plus, Daniel m'a rappelé notre projet de se rencontrer et de discuter de ce sujet.
Lélie Anvar, bonjour.
Bonjour. Oui, alors, vous avez parlé de ce mot de honte. Ça m'intéresserait de voir pourquoi ça vous a à ce point interpellé que vous en avez poussé un cri. Pourquoi le mot de honte vous fait réagir, vous, spécialiste de la Bible et psychanalyste, à ce point ?
D'abord, je ne sais pas si je suis une spécialiste dans la Bible, pardonnez-moi de vous corriger, mais c'est plutôt une passionnée de la Bible. Daniel Marguerat est un spécialiste, moi pas. Alors la honte, nous connaissons tous, et ce n'est pas un psychanalyste qui dira que ce mot n'a pas d'intérêt. Mais honte devant Dieu, où il y avait Dieu, où il n'y avait pas la honte. Enfin, pour moi, comme ça, mais je n'avais pas travaillé la question. Dieu était celui qui nous sauvait de la honte. Si Dieu était, il nous sortait de la honte et non pas il nous y mettait. Alors, vous voyez que c'était tout à fait à l'envers de ma religion, si je puis dire. Et si Dieu nous fait honte, alors la question se creuse. De quoi avons-nous honte? Et ce qui me vient, moi, à penser, c'est que nous avons honte à chaque fois que nous avons fait quelque chose qui ne correspond pas, si je puis dire, à notre être profond, à nos décisions vraiment en conscience. Donc, ça correspond à tout ce qui en moi n'est pas moi.
Oui, alors justement, c'est pourquoi vous avez finalement pris l'angle du jugement dernier pour traiter de ce hiatus qu'il y a eu entre vous. Mmh. Pourquoi ? Parce que le jugement dernier est réputé révéler la réalité de chacun au moment où on se présente en tant qu'âme, je dirais, devant le juge suprême. Et c'est pourquoi je voudrais peut-être démarrer par en posant vraiment le fondement de votre réflexion, qui est précisément un passage dans l'Évangile selon Matthieu, sur le jugement dernier, qui s'intitule d'ailleurs « Le jugement dernier ». Ce qui est très intéressant dans votre démarche, c'est que vous dites bien qu'en fait, ce jugement dernier, on en parle assez peu dans les textes. Il est assez rarement évoqué en tant que tel, mais qu'après, évidemment, la piété populaire et le clergé en particulier se sont saisis de la notion pour faire des représentations assez effrayantes des enfers ou des représentations voluptueuses du paradis. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on va voir dans Matthieu, que vous citez tous les deux, quand même que quand on apparaît au tribunal, je dirais, de la justice divine, il y a quand même quelque chose qui est le bien et quelque chose qui est le mal, et que nous avons à répondre de cela. Alors, avec la honte ou la fierté, je ne sais pas, on en discutera après. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. Nu, et vous m'avez vêtu. Malade, et vous m'avez visité. Prisonnier, et vous êtes venu me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et de venir te voir ?» Et le roi leur fera cette réponse, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira encore à ceux de gauche, « Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé par le diable et ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et prisonnier et vous ne m'avez pas visité. » Et ceux-ci lui demanderont à leur tour, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, et de ne point te secourir ?» Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. »
Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui, sans façon, m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel et nous poursuivons notre conversation avec Marie Balmary et Daniel Marguerat. Autour du jugement dernier à l'occasion de la sortie de leur ouvrage commun, Nous irons tous au paradis, le jugement dernier en question chez Albin Michel. Alors là, nous avons, Lélie nous a lu ce texte très fort de la parabole du jugement dernier du Christ, et puis avec cette musique que vous aviez choisie de Georges Brassens, qui l'illustre parfaitement, cette idée que, ben voilà, on est pour probablement juger sur l'amour. Je voudrais avoir votre point de vue à l'un et à l'autre sur ce texte, du jugement dernier, et comment donc vous l'interprétez ?
Alors moi, vous savez, il y a deux choses qui me frappent beaucoup dans ce texte. Le premier, c'est la simplicité, mais bouleversante, du critère du jugement. Attends, on imaginerait quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. D'ailleurs, dans la tradition juive, comme dans la tradition chrétienne, on a parfois construit des images du jugement dernier dans lequel le critère de séparation était beaucoup plus sophistiqué. Et là, c'est d'une simplicité bouleversante. Je dis, ce sont les gestes de simple humanité à l'égard de personnes dont Jésus endosse le besoin ou endosse la détresse. Ça, c'est la première chose. Je veux dire, il n'y a donc pas besoin d'être savant ou grand clair pour savoir, au fond, sur quoi nous allons interpeller. Puis, la seconde chose, c'est la surprise. C'est-à-dire que le Christ, dans sa position de juge du monde, interpelle les uns et les autres qui disent « Mais quand t'avons-nous vu affamé, t'avons-nous donné à manger, etc. Ou bien ne l'avons-nous pas fait ?» Je veux dire que le jugement dernier, pour moi, c'est vraiment ce moment de vérité où se dévoile le mystère de chacun. Et pour moi, c'est fondamental que le jugement dernier protège le mystère de chacun. Nous ne savons pas ou peu qui sont les autres. Nous pensons pouvoir le dire et le faire. Et il y a une parole de Jésus qui est cinglante. « Ne vous posez pas en juge afin de n'être pas jugé. » C'est au cœur du sermon sur la montagne. « Ne vous posez pas en juge. » Ça veut dire, ça ne veut pas dire « ne donnez pas, n'émettez pas un avis, une opinion. » Ce n'est pas ça. Mais « ne prenez pas la place de Dieu. » Parce que le juge est celui qui doit pouvoir en toute vérité dire quel est l'état, ce qu'est l'autre, ce qu'est autrui, ce que je suis moi-même, et le voir en transparence. Nous n'en sommes pas capables. Et au fond, le jugement dernier vient protéger le mystère de chacun et protéger aussi mon propre mystère, parce que les zones obscures en moi ne me sont qu'à peine accessibles. Donc ce moment de la surprise vient dire... Le jugement dernier n'est pas simplement une sorte de ratification de ce qui apparaît aujourd'hui dans le présent comme distribution des vertus ou des vices. Pas du tout. Les marginaux ne sont pas les marginaux. Ceux qui seront accueillis par Dieu ne sont pas ceux que l'on pense. Il y a donc cet élément, au fond, où celui qui connaît la vérité de chacun peut la dire. L'interpellation qui est faite, c'est ne confisquer pas le mystère de l'autre dans des jugements qui, aujourd'hui, ne peuvent que les mutiler.
Alors, sur cette question-là, je trouve que c'est intéressant d'avoir le point de vue de la psychanalyse, puisque s'il y a quelqu'un qui a repris à sa manière, en tout cas qui a pu donner un éclairage très intéressant sur cette phrase de Jésus « ne jugez pas », c'est Freud, en montrant l'inconscient, qu'on était bien souvent mu par des actes inconscients, qu'on peut commettre des choses qui peuvent être éprouvées tout à fait objectivement par la morale, mais qui viennent aussi de choses qu'on ne maîtrise pas forcément à l'intérieur de soi. Je pense que Freud éclaire cette parole de Jésus.
Oui, alors le suspens du jugement, c'est en plus une consigne pour toute notre profession. Si on ne suspend pas son jugement, on ne peut pas écouter l'autre. Donc c'est une attitude profonde qui est venue... C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut faire une analyse avant, qu'il est nécessaire d'avoir été soi-même écouté sans jugement pour pouvoir accueillir l'autre de cette façon. Et c'est une grande expérience que d'être écouté sans jugement. Moi, ce qui me frappe dans ce texte, je reviens là au texte que vous venez de lire, et puis aussi notre cinquième évangéliste, Georges Brassens, qui reprend, mais vraiment exactement la même logique. C'est, je retrouve là quelque chose qui fait sens à travers l'histoire, y compris dans les choses les plus tragiques que nous avons vécues, dans la Deuxième Guerre mondiale, où, quand on se demandait pourquoi certains ont accueilli des réfugiés, des déportés, des persécutés, et pourquoi d'autres ne l'ont pas fait, et pourquoi d'autres, au contraire, ont été des bourreaux, le seul critère qu'on a pu trouver, c'est que les premiers étaient présents à eux-mêmes et qu'ils sentaient la détresse de l'autre parce qu'ils avaient accès en eux à l'endroit où on sent, c'est-à-dire qu'ils étaient suffisamment en contact avec leur sensibilité, leur être profond, pour que ça ne posait même pas de question. Et combien de fois les justes qui ont sauvé des juifs disent « mais je n'ai pas eu à délibérer longtemps c'est quelque chose, leur bonheur ne pouvait pas se construire, même leur vie continuait en laissant l'autre mourir ». Et ce critère-là me semble peut-être un critère du jugement, parce que si on durcissait les choses, on pourrait dire il y en a qui existent et d'autres qui n'existent pas encore. Alors, c'est un peu dur à dire comme ça, mais heureusement, il y a un chemin pour tout le monde pour s'éveiller, mais qu'est-ce qui fera que quelqu'un va visiter les prisonniers, nourrir, etc., si ce n'est sa propre aptitude à le faire? Alors, la transmission religieuse qui ne permettrait pas à un être d'entrer en contact avec lui-même, mais au contraire qui le couperait de lui, vous voyez que ça rend impossible la position que défend ce texte qui nous semble à tous la plus grande justice.
Et moi, il y a aussi une chose qui me frappe dans ce texte, c'est que les églises ont beaucoup parlé du salut par la foi, et donc ce serait la foi qui sauverait. Et moi, quand je lis ce texte, isolément évidemment de tout un contexte, je me dis le salut, il est dit dans ce texte que par l'amour. C'est-à-dire, ce qui sauve, c'est d'être attentif à son prochain, de s'occuper de lui, même si on ne le fait pas forcément pour des raisons explicitement religieuses. Ce que dit la chanson de Brassens, c'est là-dessus, est à nouveau très éclairante. C'est vraiment, on agit par compassion, par charité, par amour. Et finalement, en faisant ça, on est pleinement dans le message de Jésus, et c'est pour ça qu'on est sauvé. Je ne sais pas si Diane Marguerat sera d'accord avec cette vision du salut par l'amour et pas par la foi.
Alors, je trouve très très intéressante la question que vous posez. Pour ma part, elle s'articule, et je vais essayer de dire comment. Quand on parle du salut par la foi, on veut dire je suis accueilli par Dieu d'une manière inconditionnelle, comme le père accueille son enfant de manière inconditionnelle, et je n'ai pour cela besoin de rien construire devant lui. Je n'ai besoin d'exhiber aucun pédigré, aucune histoire, aucun statut religieux, social, politique, etc. C'est donc l'accueil gratuit. Et donc, c'est le salut par la foi, c'est-à-dire par la confiance, hein, puisque la foi veut dire la confiance. C'est « j'ai confiance en ce Dieu qui m'accueille ». Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors ça, c'est précisément, je dirais, la grande construction de l'évangile de Matthieu. C'est pour ça que l'évangile de Matthieu insiste autant sur l'éthique, c'est-à-dire l'appel à être fidèle à Dieu, notamment par l'amour. Pourquoi? Parce que si je suis accueilli inconditionnellement, je n'ai plus besoin de me préoccuper de construire mon salut. Je n'ai plus besoin de me préoccuper des mérites ou des actions bonnes qui vont me permettre d'acquérir devant Dieu un statut qui me rendra présentable ou aimable. Je peux donc dépréoccuper de moi, me mettre à l'écoute de moi-même et surtout de la fragilité de l'autre. C'est au fond ce décentrement qui est possible parce que je n'ai plus besoin de construire mon identité, elle m'est acquise, elle m'est donnée. Je peux me décentrer sur le besoin et sur la détresse de l'autre. Donc pour moi, le salut par la foi, il tient à cet accueil par Dieu qui me rend disponible. Et qui me rend disponible, c'est pour ça d'ailleurs que, je dirais, le grand théoricien, entre guillemets, du salut par la foi, qui est l'apôtre Paul, dit à un moment donné, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, il dit « Nous qui sommes justifiés, sauvés, nous pouvons, et ça c'est paradoxal, nous pouvons satisfaire aux exigences de la loi. » Et les exégètes s'arrachent les cheveux en disant « Mais il vient de dire qu'en fait la loi était hors-jeu. » Moi, mais je ne sais pas ce qu'en pense Marie, moi je l'interprète comme ça, mais c'est vrai que c'est une interprétation de type psychologique, c'est vrai. Mais le théologien, il a besoin du dialogue avec la psychanalyste, la preuve de notre livre, pour comprendre des fois une espèce d'apparente absence de logique. Et pour moi, le lien, il se fait là. C'est la dépréoccupation de soi.
Marie Balmary.
Alors, il y a tellement d'idées là que je ne sais pas comment je les ramasse. Mais pour ce qui est de Paul, moi, j'ai souvent été fâchée avec Paul et voilà,
comme beaucoup de femmes.
Comme beaucoup de femmes, voilà.
Oh là,
mais voilà, j'ai un peu l'expérience et l'intuition que le texte grec me défâche. Et puis, je pense à cet homme qui a deux conceptions de la loi. Il en a une qui est la grande loi, tu ne tueras pas, et tout ce qui va avec, tu ne tueras pas. Et puis, il a la loi au nom de laquelle lui-même a été un tueur, enfin, a été un persécuteur. Il a obéi à une certaine... Il a été dans une soumission à une loi de telle façon qu'il ne voyait pas qu'il était en train de laisser tuer des gens en gardant les vêtements pendant qu'on lapidait Étienne, par exemple. Donc, il joue sur les deux, il parle des deux. Et je pense que la loi qui fait qu'on n'est pas le sujet, mais que c'est la loi en moi sans moi, ça l'a rendu meurtrier. Donc, il ne lui fait plus confiance. Mais en même temps, il y a la grande loi qui est sainte et qu'il reconnaît. Ça, là, la psychanalyste s'y retrouve, j'allais dire, dans les deux niveaux de la vie de Paul.
Oui, alors vous avez parlé de loi. Et je voudrais un peu me faire, non pas l'avocate du diable, mais peut-être l'avocate du juge. Parce que c'est vrai que vous jugez très sévèrement l'idée d'un Dieu juge, l'un et l'autre. Et en effet, même dans la quatrième de couverture, hein, on dit « le jugement dernier n'est plus à la mode et personne n'ira regretter le terrorisme sacré de jadis », etc., sur lequel les églises ont longtemps assis leur pouvoir. C'est vrai, je ne suis pas en train, évidemment, de me faire l'avocat du terrorisme sacré de jadis. Néanmoins, vous avez tous les deux parlé de loi. Quand il y a loi, si on parle de jugement et de juge, on ne peut en parler que sur le fondement d'une loi. Et le Dieu aussi bien évangélique, et on l'a vu quand même dans ce texte, que évidemment encore plus le Dieu biblique, est tout de même aussi un Dieu de justice. Dans la Bible, il est aussi un Dieu d'amour. C'est pas une spécificité des évangiles. Mais en fait, ce Dieu d'amour, il est à parts égales un Dieu de justice, même si son amour l'emporte sur sa justice. Néanmoins, si nous devons répondre de nos actes à partir d'une loi donnée, c'est normal aussi que ce Dieu fasse la part des choses, sépare le bon grain de l'ivraie, pour reprendre des images évangéliques, ou comme ici, les boucs, des béliers, etc., des brebis, etc. Donc, je pense qu'il est un peu trop mal aimé, ce Dieu de justice. Après tout, c'est aussi un de ses attributs. Et je ne pense pas que la place que vous donnez à l'amour soit peut-être aussi juste que cela. Parce que la justice compte aussi. Et il dit bien dans la deuxième partie, après tout, ceux qui n'ont pas été justes, ils seront jugés sévèrement. Et là, ils ne seront plus sous le coup de la loi. Même si vous citez aussi plus tard l'épître de Jean, où il est dit qu'évidemment, il nous consolera finalement. Mais néanmoins, quid de cet espace, de cet espace qui est quand même celui de la pratique. Il y a ceux qui ont pratiqué et ceux qui n'ont pas pratiqué. Et il faut bien que la justice se fasse, ne serait-ce que parce que ceux qui l'ont fait, il faut qu'ils aient quand même quelque chose en plus par rapport à ceux qui ne l'ont pas fait. Alors, pardonnez-moi, là, je suis un peu brutale. Mais...
Non, mais je comprends que vous ne vouliez pas qu'on quitte un Dieu qui sépare le bon du mauvais. Ça, je comprends. Il y a quand même... ça dépend où passe la coupure. Est-ce qu'elle passe entre les bons et les méchants, ou est-ce qu'elle passe pour chacun entre ce qui est l'or de sa présence et ce qui est la paille de ses, et le foin de ses mauvaises actions. Ça, ça brûle. Alors moi, ça m'a beaucoup frappé que tout ce qui concerne le jugement ait à voir avec le feu, parce que le feu, c'est ce qui va complètement détruire. Donc, je ne vois pas qu'il puisse être éternel et qu'on puisse être éternellement dans le feu. Le feu, c'est le néant pour tout ce qui n'a pas... exister. Et il y a un texte de Paul que Daniel dira bien mieux que moi qui dit que nous serons sauvés et la paille sera brûlée, ceux qui ont mal fait, mais ils seront sauvés quand même comme à travers le feu. Alors qu'est-ce qui reste si on passe au feu? Il y a bien un feu du jugement, mais qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui échappe au feu? Et ça m'a beaucoup intéressée, moi, de faire le rapprochement avec le buisson ardent. Il y a de la présence qui parle dans un buisson de feu mystérieux, qui n'est pas consumé, par le feu. Et le « je suis » qui parle dans ce buisson, c'est la présence pure divine, donc n'est pas défaite par ce feu. Alors, est-ce que en nous, ce qui parvient à dire « je suis », mystérieux encore, échappe à la destruction par le feu? Ça ne veut pas dire qu'il ne passe pas en jugement.
Ce que vous dites du Dieu juge rejoint tout à fait ce qui, pour moi, je dis bien pour moi, et l'intention de ce livre, c'est de réhabiliter justement la figure de Dieu juge. Parce que, alors, il fallait dire d'abord, et j'essaie de le dire effectivement de manière assez sévère, que notre image du jugement, c'est celle d'un terrorisme religieux qui est véhiculé par les porches des cathédrales et l'iconographie du jugement, et que mon analyse du jugement dans le Nouveau Testament ne parvient pas du tout à ça. Mais il se trouve que justement, parce que cette idée d'un Dieu juge n'est considérée comme plus vendable, elle a disparu de christianisme majoritaire. C'est la spécialité de quelques groupes marginaux, des communautés marginales qui vont du coup répandre une prophétie de malheur, et que du coup le résultat, c'est que le Dieu de ce que j'appellerais globalement le christianisme majoritaire, c'est un Dieu tout amour, mais un Dieu sucré qui devient impuissant et dérisoire comme un chat qui ronronne sur un radiateur et qui, du coup, devient bon à observer, mais totalement inefficace. Et que, justement, le Dieu biblique, au fond, articule sa présence autour de deux dimensions. Il y a la dimension de l'amour. Alors, il y a l'autre, moi, j'ai appelé la dimension de vérité. C'est vrai, c'est la dimension du jugement. J'essaie d'être prudent avec les mots, justement, parce que j'ai peur, notamment, qu'en disant Dieu juge, on réveille ces angoisses mal placées. Mais pour moi, c'est l'exigence de vérité. Et que cette exigence de vérité, que ce soit pour l'amour parental ou l'amour de Dieu, c'est absolument indispensable, sinon Dieu devient insipide. Il devient insipide. C'est un Dieu sympa, qui plaît à tout le monde, mais qui est un produit de marketing religieux. Or, ce n'est pas le Dieu biblique. Donc, effectivement, il y a à la fois l'amour et l'exigence de vérité.
Oui, qui n'est pas non plus d'ailleurs le Dieu évangélique. Parce que finalement, même le Christ, parfois, a des mouvements d'humeur clairs. Il n'est pas du tout insipide.
Mais en même temps, comme je trouve très important ce que Daniel Marguerite rappelle aussi, qu'il y a une image caricaturale dans l'autre. On est passé d'un extrême à l'autre.
Bien sûr, bien
Donc
sûr.
C'est vrai que des générations entières de chrétiens ont été totalement terrorisées, culpabilisées. C'est un thème sur lequel on reviendra d'ailleurs. Et ça a déformé tellement l'image d'un espèce de Dieu père fouettard que je crois qu'on était aux antipodes de l'évangile. Donc là-dessus, même si vous avez raison certainement, Lélie, de rappeler que dans les évangiles, il y a la notion de justice, de Dieu, de vérité. Il faut peut-être la recomprendre, la reformuler tout à fait autrement, en tenant compte de la dimension d'amour qui est la plus importante, et puis en essayant de comprendre où se joue le jugement. Et c'est ça qui est intéressant dans votre livre, c'est que ce n'est pas simplement un jugement factuel à partir, je dirais, d'actes qu'on pourrait presque... J'ai envie de dire, là, ce serait aussi une critique qu'on pourrait faire, d'ailleurs, de la théologie classique, des péchés mortels, etc. Les choses sont plus complexes. C'est-à-dire que le nœud du jugement, le critère du jugement, il n'est pas objectif. On ne peut pas dire vous avez fait tel péché, vous irez en enfer, vous faites telle chose, vous irez au paradis.
Et d'ailleurs, vous avez cette phrase très juste, vous dites Dieu, pour moi, n'est pas vérité ou amour, il est vérité et amour. Oui. Et je pense que ça résume.
Alors, il y a un point sur lequel je voudrais qu'on revienne, c'est la notion de honte. Là, on en a un peu parlé tout à l'heure. Et il y a un texte que vous citez aussi, c'est le texte de la Genèse. Qui est celui de Adam et Ève qui se retrouvent nus au paradis. Et donc, alors, la question, c'est est-ce qu'ils ont honte lorsqu'ils se voient nus? Et qu'est-ce qui se passe? Et est-ce qu'on peut appeler ça déjà une forme de culpabilité au sens où on l'entend aujourd'hui? Marie Balmary.
Oui, c'est ce que j'ai appelé le jugement premier. Et d'ailleurs, ça a été oublié dans la première... édition de ce livre, tellement on n'a pas l'habitude d'associer les deux. Ce qui me frappe beaucoup dans ce texte de la Genèse, ce récit mythique, c'est que la responsabilité n'arrive pas à l'endroit où on pourrait la penser. Alors, moi, tel que je lis la Genèse, et ils ont reçu un interdit qui a été posé entre l'arrivée de l'homme et celle de la femme. Et cet interdit n'est pas ce qu'on peut croire, c'est-à-dire Dieu se réserve la connaissance. Cet interdit de manger de l'arbre pourrait être entendu autrement, c'est-à-dire c'est un interdit de manger l'autre, c'est un interdit de rentrer dans avec l'autre dans une relation de connaissance dévorante. Je te connais comme si je t'avais fait. Daniel Marguerite cite d'ailleurs cette phrase. Bon. Quand ils ont mangé de cet arbre, ils ont perdu leur loi de relation et leur différence sexuelle ne devient plus symbolisable pour eux. À ce moment-là, ils la cachent. C'est là qu'apparaît la honte. Pas du tout par rapport à Dieu. C'est l'un en face de l'autre qu'ils ont honte. Ils ont honte de quelque chose qu'ils ne peuvent pas nommer de leur différence, dont ils ont perdu la clé, si je puis dire, la clé de symbolisation. Tu n'es pas moi, je ne suis pas toi, tu es un homme, je suis une femme. Bon. Et arrive à ce moment-là le Dieu, seulement à ce moment-là. À ce moment-là, il est dit qu'ils ont peur et qu'ils se cachent. Et lui, il va travailler pour qu'ils n'aient pas honte, puisqu'il va leur dire, il dit à Adam, Adam lui dit qu'il se cache parce qu'il a eu peur, parce qu'il est nu. Et le Dieu dit, qui t'a raconté que tu es nu? Et cette interrogation-là, qui n'est pas celle qu'on attendrait. Celle qu'on attendrait, c'est qu'on lui fasse honte d'avoir transgressé la loi. Pourquoi as-tu fait ça? Je t'avais bien dit. Ça va venir après. C'est donc pas une déresponsabilisation. Mais on commence. Il est commencé dans ce récit une logique qui n'est pas celle de la honte, faire honte à l'autre, mais celle de le prévenir qu'il a été trompé. Qu'il a mal entendu quelque chose, mais que quelqu'un d'autre lui a dit un mensonge. Alors, ça, je trouve que c'est une position très, très différente que celle d'une responsabilité tous azimuts. Et ça me paraît d'autant plus important par rapport à la culpabilité, justement. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi même Jésus dit « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il y a l'idée d'un homme trompé, quand l'homme fait mal. Bon, après ça, il va dire « C'est bien moi qui l'ai fait ». Il n'est pas question de dire « C'est un autre ». N'empêche que quand il l'a fait, ce mal, il n'était pas tout seul à le faire, si je puis dire. Il était pris dans quelque chose.
Vous êtes sur France Culture dans les Racines du Ciel et nous poursuivons notre conversation avec Marie Balmary et Daniel Marguerat sur le jugement dernier à l'occasion de leur livre chez Albin Michel. Nous irons tous au paradis. D'ailleurs, nous venons d'écouter ce passage à In Paradisum du Requiem de Fauré. Daniel Marguerat, vous souhaitiez rebondir sur ce que venait de dire Marie Balmary.
Oui, parce que ce que dit Marie de l'altérité dans sa relecture du texte de Genèse 3, de l'altérité non reconnue est tout à fait en phase avec ce que je disais auparavant du mystère. Parce que ne pas reconnaître la différence la différence de l'autre devant moi, ne pas reconnaître son altérité, c'est précisément ne pas lui reconnaître sa part de mystère. Et donc penser pouvoir prendre possession de lui. Et encore une fois, le jugement est ce qui protège l'autre de ma prise de possession, qui me protège de mon impression que je peux l'envahir par la connaissance que j'aurai de lui, par le savoir que je prétends avoir sur lui. Donc pour moi, reconnaître l'autre différent, c'est préserver son mystère et c'est précisément entrer dans cette révélation que le « ne jugez pas » n'est pas un interdit visant à me frustrer, mais un interdit protecteur. Cela dit, il y a une autre chose qui me paraît importante à dire par rapport au jugement, c'est que la croyance au jugement nous évite de banaliser le mal. J'entends par là, le jugement affirme qu'un jour, l'ultime parole qui sera dite, non seulement sur les autres, sur moi-même, mais sur le monde, une ultime parole sera dite et qu'elle sera dite par Dieu. et que Dieu, à ce moment-là, donnera libre cours, si je suis un petit peu la veine des prophètes ou de Jésus le prophète, les accents prophétiques de la prédication de Jésus à ce moment-là, Dieu donnera libre cours à son indignation face aux riches qui exploitent le pauvre, face à ceux qui méprisent autrui, face à ceux qui abusent d'autrui ou l'instrumentalisent au service de leur propre réussite. Donc le jugement, c'est aussi le lieu de déploiement de cette indignation de Dieu contre ceux qui mutilent l'humanité. Alors, pour moi, c'est absolument structurant de savoir cela. Je veux dire que lorsque j'assiste aux cascades de drames que déploient soit la presse, soit les journaux télévisés, quand je suis exposé journellement au cynisme des politiques ou à la cruauté de l'économie, il est capital de pouvoir me dire un jour, ceux-ci seront désavoués, un jour, ceux-ci seront disqualifiés. L'ultime parole n'est pas ce que je vois, n'est pas ce qui m'est dit, mais l'ultime parole, c'est ce que l'Évangile m'annonce comme démonstration d'une indignation de Dieu.
Mais d'ailleurs, tout ce que vous dites est présent dans toutes les religions, effectivement. C'est un des points communs, sans doute, de toutes les religions, orientales comme monothéistes. C'est cette idée qu'effectivement, ce qui se passe sur Terre n'est pas le mot ultime et qu'il y aura toujours un discernement, une vérité et un accomplissement de ce qui a été initié sur Terre, qui n'a pas pu s'exprimer pleinement. On le voit même dans la logique du karma des hindous ou des bouddhistes, c'est que tout acte négatif, effectivement, on le payera par un effet négatif, tout acte positif, oui, engendre chose positive. Donc finalement, que ce soit dans une vision divine ou dans une vision plus immanente, oui, tout ce qu'on sème, on le récolte d'une certaine manière, et il y aura une élucidation de la vérité. La question qu'on peut se poser quand même sur le jugement dernier, c'est est-ce que les gens seront jugés, j'ai envie de dire, un peu malgré eux ou avec eux? C'est-à-dire, est-ce que, au fond, le pécheur, entre guillemets, va lui-même reconnaître à la lumière de Dieu que tout ça, c'était, il s'est trompé, qu'il s'est égaré, et qu'il ne demandera qu'une chose, c'est que tout ça brûle. C'est comme vous disiez, Marie Balmary. Et donc, c'est peut-être pas contre la volonté du pécheur que l'homme sera condamné à un enfer qui ne sera certainement pas éternel, parce que c'est quelque chose qui paraît effectivement très peu probable si on tient compte du contexte global de la Bible, mais qui serait simplement une sorte de purification.
Oui, j'aime bien votre idée de juger avec, parce que même ici, nous sommes déjà conscients de cela. Quand un être arrive à plus de vérité, il voit par lui-même qu'il a mal fait. Il y a une conscience profonde de l'homme qui ne peut pas être trompé. Ça me frappe beaucoup, moi, avec l'expérience clinique. Donc, ce juge, il est déjà en nous. Il n'est pas féroce du tout, il est seulement extrêmement clairvoyant.
Il peut être féroce.
Mais ça n'est pas le même étage qui est féroce, c'est ça. Il y a un super gendarme qui peut être féroce. La conscience profonde, elle n'est jamais féroce. C'est vraiment une des choses que peut nous révéler la connaissance de l'inconscient. Il y a une sorte de vérité profonde. Ça n'est pas un auto-jugement. C'est ce que pense un être quand il est vraiment en présence de la vérité,
de la lumière
et de la lumière et de l'amour.
Vous dites d'ailleurs que le jugement est l'horizon qui convoque l'humain à déployer son jeu. Et donc, en réalité, c'est ça. Et donc, c'est-à-dire de devenir. En fait, est-ce que j'ai été un avec moi-même? Et vous arrivez à cette conclusion à la fin en disant que la seule vraie question, c'est qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et finalement, toutes les souffrances de l'enfer ne sont jamais que les souffrances intérieures de la personne, d'être rejeté loin de la proximité ou de se dire « je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire de ce précieux présent qu'était la vie ».
Oui. Il y a un rabbin juif qui est le rabbin Zusia et qui dit ceci au jugement. « Dieu ne me demandera pas si j'ai été Moïse ou si j'ai été David. Il me demandera si j'ai été Zusia. » C'est-à-dire si j'ai été fidèle à ma vocation, si j'ai été moi-même tel que Dieu me regarde et me désire. C'est bien ça.
Alors, dernière question, la question des corps, la résurrection des corps, ça c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Éclairez-nous.
Dans le langage néo-testamentaire qui suit l'anthropologie hébraïque, le corps, c'est la personne avec toute son histoire.
Oui, ce n'est pas nécessairement le corps physique, matériel.
C'est pas nécessairement... Non, c'est la chair.
C'est la chair, c'est la chair. Sens de...
Effectivement. Et en fait, le Nouveau Testament ne parle pas de la résurrection de la chair, mais de la résurrection du corps. Ça, c'est une assez forte différence. C'est ensuite la tradition chrétienne qui s'est mise à parler de la résurrection de la chair. Non, c'est la résurrection du corps, c'est-à-dire le moi, le je, avec toute son histoire, avec sa pesanteur, avec son épaisseur humaine, et je dirais effectivement avec aussi son existence matérielle. Mais ce n'est pas d'abord la résurrection des os et des ligaments.
Lélie, on va.
Oui, alors justement, finalement, ça rejoint ce que vous venez de dire. Je vous ai choisi un texte, un poème de Marie-Noël. Pour tout vous dire, j'ai beaucoup cherché dans les poèmes. Il y a tous les poèmes qui sont sur le jugement. Et par exemple, vous pourrez aller voir chez Agrippa d'Aubigné dans le chapitre justement « Jugement des tragiques ». En tout cas, tous les poèmes sur le jugement sont des poèmes absolument terrifiants. Et je me suis dit non, je ne vais pas lire cela parce que je ne vais pas réhabiliter cette vision-là des enfers. Mais au contraire, dans mes recherches, j'ai retrouvé en fait un texte que j'avais lu il y a très longtemps de Marie-Noël et qui m'avait beaucoup touchée et qui parle de la destination de l'âme telle qu'elle l'aperçoit, elle. Et je crois que ça va nous réconcilier tous les quatre sur l'idée que l'âme, finalement, elle vient de l'amour et donc elle retournera à son origine, qui est finalement le giron de l'amour primordial. Âme, où vais-je en mort? Où vais-je, âme, sans mes pieds humains? Savais-je en naissant, savais-je quand m'a prise le chemin qui ne dit lieu à personne du champ d'ombre qui frissonne derrière lui, le matin. Savais-je où j'étais menée par d'étrangères années, d'âge vif en âge mort, pour être mise à l'épreuve loin de mon pays et veuve de l'être de qui je sors. Ignorante de ma source, âme, et du but de ma course, en peine à travers les jours, rien n'est su, rien qu'à la suite d'un fils d'homme, être conduite de l'amour père à l'amour. Où vais-je? Passer le monde, loin perdu en mer profonde, ou plus net d'île, j'entends bruire immense murmure, l'amour, ma patrie obscure, où l'amour, Dieu sans figure d'avant et d'après le temps, m'attend.
Merci Lélie, merci Marie Balmary, merci Daniel Marguerat. Merci Je rappelle le titre de votre livre, Nous irons tous au paradis, ça c'est une belle promesse. Le jugement dernier en question, chez Albin Michel. Cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. La semaine prochaine, nous recevrons Christine Jordis qui nous parlera de Gandhi. Dans un instant, vous retrouvez le journal de 8h. Très beau dimanche à tous.